Je vais surtout développer au fur et à mesure des questions qui arriveront les grandes lignes de ce que M. Blandel a exposé ce matin, puisque les travaux du groupe de l'ADESME depuis un an à peu près se sont conclus au mois de juin par un séminaire de notre association, un séminaire du bureau national de notre association qui est arrivé à un consensus sur les positions qui vous ont été exposées. La note qui en est issue est en cours de mise au point final et devrait être diffusée la semaine prochaine. Les grandes lignes de l'exposé de Jean-Yves Blandel, je les rappelle, sont assez simples. Dans le contexte de la loi de 2016 qui, dans son article 69, a défini d'une manière que nous n'espérions plus depuis des années les missions et certains outils des établissements en charge de la psychiatrie dans le champ de la santé mentale, s'appuyer sur ce cadre législatif nouveau, attendu, et qui est issu d'une concertation réelle avec les acteurs, précisé plus récemment par ce décret sur les projets territoriaux de santé mentale, objet de nos échanges d'hier, également issu d'une large concertation avec les acteurs de la psychiatrie qui s'y retrouvent, nous y retrouvons tous. Ce contexte dessine les grands axes d'un nouveau modèle de financement, puisque, je ne reviendrai pas spécialement là-dessus, tant la situation actuelle que les tentatives de modulation essayées par les agences régionales de santé ces dernières années se sont avérées inopérantes à notre sens et doivent être dépassées. Donc, sans revenir sur les éléments de critique du système actuel, de critique des projets d'évolution, que ce soit la VAP ou les modulations interrégionales ou intra-régionales récentes, les axes que nous proposons sont, je les répète, de s'appuyer sur la définition des missions des acteurs du champ de la santé mentale et tout particulièrement des hôpitaux psychiatriques pour les financer de manière distincte par grande mission, sans exclure aucun mode d'allocation de ressources, et on peut donc aller selon les missions du tarif au forfait en passant par des modalités encore différentes à imaginer, l'important étant de faciliter le développement de toute la palette de l'offre de soins en psychiatrie et en santé mentale dans tous nos territoires, puisqu'une des finalités attendues de cette réforme est de résoudre ce problème d'inégalité de l'accès aux soins qui passe par un travail sur l'égalité de l'offre de soins, mais également par un travail sur l'expression du besoin. Voilà. Répondre sur tous les territoires à toutes les missions qui sont définies par la loi nous paraît la finalité première d'une réforme du financement. La deuxième serait du point de vue des établissements gestionnaires de l'offre. Je fais une incise, je rappelle que l'ADESME, qui rassemble 200 établissements adhérents du secteur dit public, c'est-à-dire financé en dotation annuelle de financement aujourd'hui, sont adhérents à la FHF pour une part d'entre eux et à la FEAP pour l'autre part. Donc ce sont des établissements de statut public ou de statut associatif non commerciaux. Donc cet ensemble d'établissements a comme point commun les valeurs du service public. Voilà. Je me suis perdu dans mon incise. Je voulais dire que du côté de l'offre, ce qui nous paraît important, c'est que le système de financement responsabilise les acteurs. Parce que la responsabilisation, la liberté d'initiative, la liberté d'organisation qui est offerte, qui est reconnue d'ailleurs par l'article 69, qui est tout à fait innovant, article 69 de la loi du 26 janvier 2016, qui est tout à fait innovant dans ce sens, puisqu'il traduit dans un support législatif les grands principes de subsidiarité. N'intervient le niveau supérieur quand le niveau de base n'a pas pu ou su prendre l'initiative de s'organiser, et le principe de responsabilité, cet état d'esprit voilà, qui prévaut à la définition désormais de l'émission du service public de psychiatrie et santé mentale, à mon avis, à notre avis, à l'avis du groupe, de l'avis du groupe et de l'ADESME depuis le séminaire du 22 juin, ne doit pas être trahi par les outils. Au contraire, les outils d'allocation de ressources doivent permettre toutes ces initiatives, toute cette capacité d'adaptation à des réalités de terrain, à des réalités donc de besoins de soins, mais également des réalités d'offres de soins, notamment les réalités de démographie professionnelle, dont il faut tenir compte puisqu'elles caractérisent les grands écarts qu'il y a entre nos territoires. Et donc, avoir la latitude de gérer des ressources pour répondre à des besoins de santé sans être encadré dans le détail sur la façon de faire. C'est ainsi que ces dernières années, sous un régime de dotation annuelle de financement, nos établissements, ça a été brièvement évoqué ce matin, mais on peut le développer, ont su créer sans même de support réglementaire pour cela, de nouvelles façons d'intervenir. Et d'ailleurs, le dispositif de soins psychiatriques décrit par ce décret de 1986 est complètement caduque de ce point de vue-là, puisqu'ils n'imaginaient pas nos équipes mobiles d'intervention à domicile, nos modalités de coopération avec le médico-social, les systèmes de réponse en urgence ou de régulation des appels psychiatriques du type centre 15, psy, etc. Mais de nombreuses illustrations peuvent être données. Tout ce foisonnement d'initiatives, le terme était employé ce matin, doit être favorisé par le système de financement. Donc c'est une deuxième grande finalité que le système de financement favorise, suscite l'initiative des acteurs, parce que c'est ainsi que sur nos territoires nous répondrons le mieux aux besoins de nos concitoyens avec les ressources qui sont les nôtres et en tenant compte d'une réalité qui est la diversité de nos situations, notamment démographiques. Voilà pour les deux premières finalités. On peut en ajouter encore une, ça se recoupe avec les quatre objectifs qu'exposait Jean-Yves Blandel ce matin. Si l'on demande la troisième finalité, c'est que le système ne soit pas coûteux à administrer. Je développe un tout petit peu. Si l'on demande au système de santé de dépenser mieux, ce qui peut être dépenser moins dans certains cas, mais surtout dépenser mieux, il faut absolument que les outils d'allocation de ressources ne coûtent pas cher à gérer. Or, pour nous, le système de la T2A est un contre-exemple absolu de ce qu'il faut faire. En ce sens que, quand on l'analyse dans le détail, la structure technico-administrative qui a dû être créée au long des années pour mesurer l'activité, la recueillir, la retraiter, pour mesurer les coûts après retraitement et bâtir des échelles de tarifs, administrer tout cela, injecter des doses d'orientation de politique publique, de politique de santé publique, tant au niveau des établissements, des opérateurs de terrain, qu'au niveau des administrations intermédiaires, les agences régionales de santé, à une époque, au moment des ARH, les caisses régionales d'assurance maladie avaient encore également un rôle de ce côté-là. Et puis au niveau du ministère et de ses opérateurs, au niveau national, l'ATI par exemple, le coût de l'ensemble de cette structure technico-administrative est ponctionné sur les ressources que la collectivité consent à la santé. Or, on a la conviction dans le groupe qui a réfléchi et propose cette position de l'ADESM, on a la conviction qu'on peut dépenser moins sur cette partie-là du système, voilà, la partie administration du système, de manière à dépenser plus sur les soins, sur la coordination entre les acteurs, y compris dans un partenariat avec le champ qui n'est pas directement financé sur l'enveloppe des dépenses de santé, donc y compris avec le champ médico-social ou le champ social. Voilà. Donc je ne développe pas plus, je revenais donc sur les idées forces, quelques idées forces de la position de l'ADESM. Je pourrais revenir plus tard, si les questions viennent de la salle, sur les éléments plus détaillés de la position que nous avons désormais rédigée. Voilà.